Bonjour Odile Le Galliotte.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la délégation Pyrénées-Gascogne de l'association de l'APF France Handicap. Nous sommes ici dans les locaux de l'APF France Handicap à Tarbes, dans le quartier de l'Arsenal. Merci d'abord de nous accueillir. On va aborder plusieurs sujets avec vous. On va aborder notamment la question du remboursement des fauteuils roulants pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et puis nous parlerons aussi élections municipales. Mais avant cela, on va quand même prendre le temps de découvrir votre délégation. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous dire un petit peu comment ça fonctionne, qui sont les acteurs de ce lieu ?
Ben avec plaisir, et je suis ravie d'avoir l'antenne pour parler et présenter notre association APF France Handicap. Juste un rapide retour en arrière, APF France Handicap a été fondée en 1933, et notamment par un jeune de 19 ans. Aujourd'hui, c'est une grosse association française, une parmi les plus grandes, qui représente les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, que ce soit moteur, psychique ou autre. Ici, dans le département des Hautes-Pyrénées, nous avons une quinzaine de structures au total, donc ce qui fait une implantation assez importante de l'association. On a des structures sur Ordizan, sur Arins-Marsous, sur Argelès-Gazost, et puis on a des services qui interviennent sur l'ensemble du département. La délégation départementale, donc, on vous accueille aujourd'hui dans nos locaux basés à Tarbes, a trois actions importantes. L'action autour de l'accueil, de l'information, quand on a une question qui a trait de près ou de loin au handicap, et bien vers qui on peut se tourner, vers quelle association peut nous répondre. Et on a un service qu'on appelle Handi Droit, on vous accueille, on prend le temps de vous écouter, que vous puissiez, j'allais dire, poser votre valise et puis nous parler. On va les aider dans leur démarche, on va les conseiller. Peut-être les orienter vers d'autres associations spécialisées, vers des services. En tout cas, on est là pour qu'à un moment donné, voilà, ils puissent poser leurs questions, quelles qu'elles soient. On a beaucoup, évidemment, l'accès aux droits, des dossiers administratifs, parce que c'est un peu complexe.
Vous les aidez à remplir, oui. À constituer leur dossier administratif ici.
Tout à fait. On les conseille, on peut les aider, on peut leur faire relire avec eux, les aider à comprendre les décisions qui ont pu être prises. Peut-être aussi voir si... vous savez, quand on tire un fil sur une question... finalement on s'aperçoit que derrière il y a d'autres fils à tirer peut-être ou d'autres options qui se présentent, donc ça c'est important, ce temps de l'accueil. Vous disiez tout à l'heure, quand on arrive ici on se sent bien parce qu'on a le sourire, on a le café. C'est très important de prendre ce temps-là avec les personnes. On reçoit des familles beaucoup également, des proches et des personnes en situation de handicap elles-mêmes, mais parfois ça peut être une mairie qui pose une question, ça peut être un commerçant qui pose une question. Bref, c'est un lieu où on peut se poser une question. La seule question, j'ai envie de dire, qui peut être idiote, c'est celle que vous ne posez pas parce qu'on ne pourra pas y répondre. Voilà. Le deuxième volet important de notre action, c'est tout ce qui concerne l'accès aux droits, la représentation. On est très présent sur notre département et puis c'est une association aussi à volet régional et national où on va siéger. Ce matin, j'étais à 8h30 en réunion avec la MDPH, par exemple, sur un projet qu'ils ont. On nous sollicite très souvent pour faire avancer la cause, pour pouvoir siéger dans telle ou telle structure. Alors, c'est pas que moi, Odile Le Galliotte, j'ai à mes côtés des élus départementaux, j'ai des personnes bénévoles impliquées et des personnes en situation de handicap. Et on va travailler autour de l'accès aux droits, de la sensibilisation, et ça, c'est un volet passionnant également.
Alors ça c'est très important parce que ça montre aussi que vous ne travaillez pas tout seul en vase clos et que, évidemment, votre action, elle est liée à l'action que peuvent mener d'autres structures et notamment les municipalités.
Bien sûr, ça c'est très important de travailler en partenariat. On est inscrit dans une cité, dans un pays, on a des interactions. Et en fait, les personnes en situation de handicap et leurs familles, en fait, c'est des gens comme tout le monde. D'abord, on est un Français sur six en situation de handicap quand on prend tous les types de handicap. 12 millions de Français en situation de handicap et 12 millions d'aidants. Ça fait quand même un gros...
Ça fait du monde, des personnes qui ont des choses à dire et qui ont des choses à apporter.
Ben oui, mais comme toute différence, je crois qu'on s'enrichit les uns les autres de notre différence. Alors certes, il y a le handicap, mais vous dire que le handicap n'est pas une fin en soi. On peut avoir un handicap. Et attention, 80% du temps, le handicap ne se voit pas. Donc, sauf à rester chez vous, enfermé devant la télé sur votre canapé, puis à déprimer un petit peu, vous sortez dehors pour aller acheter votre pain. Si vous croisez 6 personnes, il y en a une qui est en situation de handicap. Elle vit au milieu de vous. On fait les mêmes choses. On a les mêmes envies. On a le même caractère. On peut aussi être insupportable. Mais le handicap n'est pas un caractère en soi. On n'est pas déprimés plus que les autres et on n'est pas tous capables de faire les Jeux Olympiques. Et bien, entre ces deux extrêmes, on va dire, et bien, on a des citoyens comme vous et moi qui ont exactement les mêmes envies, qui ont les mêmes volontés. Alors, reconnaissons aujourd'hui que la ville et la cité quand même s'ouvrent aux personnes en situation de handicap et aux différences, mais c'est un combat permanent.
Et notamment, on s'ouvre aussi parce que depuis 20 ans, on a quand même mis le paquet sur l'accessibilité déjà, et puis on a cassé des tabous, notamment dans notre manière de parler du handicap.
Tout à fait, en parlant de personnes en situation de handicap ou personnes handicapées, vous avez mis le mot « personne » devant. On n'est pas un handicapé, enfin c'est pas un troisième sexe le handicap par exemple. Donc c'est important effectivement de situer la personne. Alors c'est vrai, vous avez raison, on a fait des progrès en accessibilité. Alors là je vais aller sur le champ du handicap moteur peut-être un peu plus spécifiquement. Si vous avez une ville dont les trottoirs ou dont les établissements ne sont pas accessibles, moi je suis à l'arrêt dans ma vie, je ne peux pas bouger. Donc c'est important que la ville soit accessible et puis ça va bénéficier à tout le monde. Hein. Ça va bénéficier, vous quand vous avez une valise... Je prends l'exemple de la gare de Tarbes, mais je pourrais en citer d'autres. C'est celle qui me vient spontanément. Pendant plus de 2 ans, on devait franchir les escaliers pour passer d'un quai à l'autre avec une valise de 20 kilos. Ce n'est pas évident, quelle que soit la personne, avec des enfants, plus une valise et une poussette. Aujourd'hui, il y a un ascenseur qui fonctionne à nouveau. C'est un confort pour tout le monde, mais c'est une nécessité. Alors, il se trouve que l'année dernière, on a fait paraître, on travaille dans un cadre d'un collectif avec d'autres associations sur le handicap visuel et le handicap moteur, le guide mi-chemin. Alors, un petit clin d'œil, on n'a pas sorti le guide Michelin, on n'a pas donné des étoiles. On a sorti le guide mi-chemin parce que on était aux 20 ans de la loi de 2005, une grande loi pour la citoyenneté des personnes. Il y avait un volet notamment très important sur l'accessibilité. Oui. On ne s'est pas réveillé 10 ans après, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, en disant « ça y est, youpi, tout est accessible ». En fait, ça a pris et ça prend encore du temps.
Alors, il y a un troisième volet encore dont vous devez nous parler, mais quand même, on reste sur ce deuxième volet, parce que pourquoi ça a mis autant de temps? Et pourquoi ça met autant de temps? Pourquoi c'est si compliqué de concrétiser cette question de l'accessibilité depuis 2005 quand même? On a eu du temps, on a eu des moyens pour faire les choses. Alors, il y a des choses qui ont été faites, mais finalement, c'est vrai, vous parlez de la cité, bon, quand on regarde autour de soi, il y a quand même encore beaucoup de quartiers, de villes, de communes plus petites, plus modestes. Ça pose aussi la question de la capacité financière qui ont encore du chemin à faire, pour reprendre le mot que vous employez.
Ah, je crois que le premier frein, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire c'est la personne, c'est le regard qu'on va porter vers les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de mentalité, de tradition aussi que nous avons, de ne pas intégrer systématiquement l'accessibilité comme elle devrait être intégrée dans les projets que nous avons. La première loi, c'était 1975. Tout ce que nous avons construit depuis 1975, si la loi avait été respectée, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Idem pour la loi de 2005.
Ah ben alors, encore plus pour la loi de 2005 qui venait renforcer ça. Intégrer l'accessibilité, c'est comprendre pourquoi, par exemple, c'est important d'avoir un contraste visuel, que le mur et la porte ne soient pas de la même couleur pour que les personnes qui ont une déficience visuelle repèrent tout de suite la porte. Et quand la poignée, en plus, elle a une autre couleur, elles vont le repérer tout de suite. Rentrer dans un sanitaire où tout est blanc, eh ben, si j'ai un problème visuel, je vais avoir du mal à me repérer.
Mais ce n'est pas forcément une question de volonté, c'est aussi une question de méconnaissance. Les gens ne savent pas tout ça.
Vous avez tout à fait raison. Une méconnaissance, et je déplore qu'encore dans le cursus des architectes, dans leur cursus de formation, la place donnée à l'accessibilité, elle est trop réduite. L'accessibilité numérique, et là, ce sont nos amis en situation de handicap visuel qui la réclament haut et fort, elle n'est pas intégrée systématiquement dans les sites. Quand vous allez visiter un lieu, vous faites vos recherches sur Internet, c'est compliqué d'avoir des informations sur l'accessibilité. Donc, il n'y a pas un surcoût énorme quand on prévoit un bâtiment qui est accessible. Où ça devient compliqué, c'est que quand on ne l'a pas intégré, on ne l'a pas fait correctement, ben, c'est compliqué.
D'où la nécessité d'avoir dans ces équipes des personnes qui sont de structures comme la vôtre ou qui sont elles-mêmes en situation de handicap pour pouvoir alerter, expliquer et faire un peu de pédagogie, en fait.
On parle avec les communes, on parle avec les décideurs, les communautés de communes, avec la préfecture. On sensibilise, on explique. Parce que si je n'explique pas et si je ne leur dis pas pourquoi c'est important, ben quand je vais faire les travaux, je ne vais pas le faire correctement. Pourquoi c'est important qu'entre une pente à 5% et à 7%, ben, mettez-vous dans un fauteuil, vous verrez la différence. Donc tout ça, une fois qu'on explique, qu'on dialogue, qu'on nous permette de venir dialoguer, parce qu'on n'est pas des jusqu'au boutistes de l'accessibilité. Parfois, c'est peut être compliqué, parfois c'est pas possible, mais on arrive quand même très souvent à trouver des solutions. Laissons-nous faire le chemin pour venir, et vous venez vers nous aussi, qu'on dialogue et qu'on voit ensemble comment on peut améliorer les choses. Chaque fois que ça s'est fait dans cet état d'esprit-là, on a gagné en accessibilité.
Alors, passons au troisième volet.
Oui, alors le troisième volet, c'est ce que nous, on appelle le lien social. Et ça va vous parler et parler à vos auditeurs. C'est-à-dire que bien souvent encore, la personne en situation de handicap, elle est réduite à son handicap, c'est un objet de soins, c'est un objet de voilà, il faut l'aider, etc. Mais si je réaffirme que c'est avant tout une personne, vous, une fois que vous avez mangé, que vous êtes habillé, que vous êtes levé, que vous avez un logement, votre vie, elle ne se résume pas à ça. La vie, elle est remplie d'interactions avec les autres, de liens, de projets, de rencontres, d'un métier. Ben, c'est exactement comme pour tout le monde. On a besoin de rencontrer du monde, de faire des projets. Et nous sommes à la fois, ce que je dis, un refuge, parce qu'on a besoin de se retrouver parfois entre nous, mais passerelle. Et donc, on propose des activités, des rencontres, on fait des projets. On peut avoir envie d'aller en Espagne, manger une paella ou des tapas, de participer à l'offrande musicale, un formidable festival inclusif sur le département des Hautes-Pyrénées. Ça me permet de saluer David Frey au passage, hein, et son initiative avec toute son équipe. On a envie de faire les mêmes choses. Et donc, il y a encore des secteurs pour le lien social et pour les activités qui est compliqué, l'accès au voyage. Franchissez une agence de voyage, vous êtes en fauteuil roulant, déficient visuel, et j'ai envie de partir à tel endroit. Je pense que l'agence de voyage, malgré sa bonne volonté, va être un peu dans un plan galère.
Alors vous, cette galère, vous la dépassez, puisque mon petit doigt m'a dit que vous organisez des voyages ici.
Oui, alors c'est un défi qu'on relève déjà depuis des années, depuis plus de 30 ans, c'est d'oser. On avait notre fondateur disait « risquons l'impossible ». Bah, allons-y. Moi, je pars du principe que si j'ai envie de faire quelque chose, je vais essayer. Qu'est-ce que je risque ? De ne pas réussir ou de devoir changer un peu mon projet ? Donc oui, effectivement, depuis des années, on organise des séjours vacances grâce à des bénévoles très investis, à une équipe salariale. Cette année, par exemple, on va faire 3 séjours vacances. Un dans le sud-ouest, la destination est en train d'être calée, mais quand même avec 20 personnes. Alors quand je dis le nombre de personnes, c'est moitié-moitié. Personnes en situation de handicap et accompagnateurs. On va partir à Milan.
Parce que carrément.
Mais oui, effectivement, vous avez compris un peu notre état d'esprit. Il y a des liaisons pour l'Italie ou pour d'autres villes au départ de notre aéroport. Allons-y.
Alors, quand vous débarquez, quand vous dites, voilà, on arrive, on a un groupe de 30 personnes en fauteuil ou porteuses de handicap, comment les gens réagissent en face de vous ? Est-ce qu'il faut... Il faut des structures, il faut une logistique oui. qui n'est pas comme celle de tout le monde qui peut prendre sa valise, la jeter dans une voiture. Et il y a quand même une organisation, on imagine, bien plus complexe. Comment réagissent vos interlocuteurs quand vous dites qui vous êtes et comment vous arrivez ?
Alors, vous avez raison de le rappeler, parce que ces projets-là, on les travaille un an et demi à l'avance. Oui, on a un grand voyage, celui où il y a une grosse capacité avec 25 personnes en situation de handicap et 25 accompagnateurs. Et on part dans le golfe du Morbihan, à Saint-Gilda-de-Ruiz, fin mai, début juin cette année. Le défi, c'est de partir aussi avec des personnes qui n'ont pas accès aux vacances aussi facilement que d'autres, et de les remettre dans une dynamique. Je pense à Stéphane, par exemple. Il faut 2 personnes pour l'aider le matin pour se lever. Et il faut des soins médicaux. Et on a la chance d'avoir une médecin bénévole qui part avec nous chaque année. Et puis, il faut 1h30 pour le coucher le soir et être disponible dans la journée selon ses besoins. Il a fait un voyage, il en a fait 2. Cette année, il ne vient pas. Je me suis dit, mince. Ben non, il ne vient pas avec nous parce que cette année, il va faire le voyage avec ses auxiliaires de vie. Il va faire son propre projet. Et là, je suis ravie, je suis très contente. ça y est, il est lancé, c'est parfait, on adore ça.
En fait, c'est ça, la vocation de ce lieu, c'est de oser, de dire aux autres, à tous les autres, les bénévoles, les personnes en situation de handicap, que vous pouvez oser, que vous avez le droit de le faire et que vous avez raison de le faire.
Mais faites-le, voilà, risquons l'impossible, osez. Ça c'est important. Osez, faites-le. Bon, si on vise la Lune, au pire, on arrive dans les étoiles, c'est pas mal non plus. Donc, voilà, c'est un peu tout le temps ce qu'on se dit. C'est un lieu de projet permanent. C'est un lieu de rire. Alors, je nie pas la difficulté du handicap, je nie pas les moments d'émotion. On a vu des personnes partir, on a des moments plus difficiles que d'autres, on a des familles ou des personnes qu'on accueille qui sont vraiment, j'allais dire, en panne, dans la difficulté, voire dans l'angoisse. Mais c'est un lieu où on va d'abord prendre le temps, rassurer, de dire que on est vivant. On est vivant.
Alors, on a encore pas mal de questions à vous poser, mais le temps passe, Odile Galiot. Peut-être pour terminer sur cette présentation de la structure, on n'a pas dit le nombre de personnes, à la fois personnes accompagnées, puis les personnes bénévoles et les personnes salariées qui sont ici avec vous.
Alors là, je vais avoir le volet Hautes-Pyrénées. Sur le département des Hautes-Pyrénées, c'est à peu près 1000 personnes que nous accompagnons dans nos structures, hors 10 ans, et avec des enfants et des adultes, sur le secteur d'Arras-Marsous et Argelès, et les personnes qu'on accompagne à domicile. On a une équipe salariale pour la partie délégation départementale de 5 salariés. On a un dispositif Habitat Inclusif, on va en ouvrir un autre bientôt. On a plusieurs services comme ça. Et puis, j'ai la chance d'avoir avec mes côtés cette équipe salariale. J'ai des bénévoles. Et ça, c'est précieux. Il n'y en a jamais assez. J'ai des bénévoles très investis politiquement.
Combien de bénévoles ?
Sur le département des Hautes-Pyrénées, nous en avons 170. 170, alors qu'ils s'investissent de façon, selon leurs possibilités, de façon ponctuelle ou de façon plus soutenue, parce qu'ils mènent des missions, ils ont des mandats de représentation, ils viennent régulièrement.
Alors, on a deux sujets importants encore à aborder avec vous, Odile Galiot. Je voudrais qu'on parle du coût des fauteuils roulants et des remboursements, puisqu'on en a beaucoup parlé en fin d'année 2025, avec cette possibilité de rembourser les fauteuils roulants. Sans doute y a-t-il des conditions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est quoi la loi, la règle aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, la règle, c'est que les personnes qui ont besoin d'un fauteuil roulant, c'est quand même une partie importante, et le fauteuil roulant, ce sont les jambes. Et on n'a pas un fauteuil roulant parce qu'on est devenu feignant. On a besoin de ce fauteuil roulant, qu'il soit manuel ou électrique, à une prise en charge intégrale financièrement. C'est un combat de longues années d'APF France Handicap et d'autres associations à nos côtés. Et enfin, on a été entendu. Un fauteuil roulant, le tarif de base, il est tarif sécurité sociale, il n'est pas très élevé. Par contre, on peut aller pour un fauteuil roulant électrique jusqu'à 15, 20, 30 000 euros avec les options. Et là, on a souvent des personnes avec ce qu'on appelle un reste à charge qui était insupportable et qui pouvaient parfois ne pas avoir accès à leur fauteuil roulant. Et on avait en plus toute une lourdeur administrative pour avoir ce matériel-là. Alors parfois aussi, les fauteuils font l'objet d'options supplémentaires.
Oui, enfin, c'est quand même pas un objet de luxe. Si les personnes pouvaient s'en passer, elles s'en passeraient.
Absolument pas. Même si ça coûte parfois plus cher qu'une voiture, c'est pas du tout un objet de luxe. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a une prise en charge intégrale. On a surtout un guichet unique. C'est plus tout un parcours du combattant pour décrocher une aide ici, une autre aide par là, etc. Même s'il y avait la MDPH, mais ça restait quand même le plan galère. Deux ans minimum pour avoir ce renouvellement du fauteuil roulant.
Donc en attendant, c'était quoi? C'était des fauteuils roulants bas de gamme, si je puis dire, loués? Enfin, comment ça se passait?
M'est arrivé, moi, de prêter un fauteuil roulant, parce qu'on a quelques matériels qu'on peut récupérer ponctuellement, de prêter un fauteuil roulant à une personne qui avait son propre fauteuil roulant en panne. Ça m'est arrivé de voir des situations où la personne revenait sur un fauteuil manuel, mais comme elle n'a pas l'usage complet de ses mains, elle ne pouvait pas avancer sans l'aide de quelqu'un. On avait des situations tragiques. Alors parfois, c'est de revenir sur un vieux fauteuil manuel, par exemple, en attendant qu'on ait un fauteuil qui soit plus confortable ou qui réponde aux besoins évolutifs de la personne.
En tous les cas, aujourd'hui, toute personne qui a besoin d'un fauteuil roulant, manuel ou électrique, va être aidée et va voir son équipement remboursé intégralement et rapidement.
rapidement, alors vous savez, quand une loi est mise en place, on attend un tout petit peu pour voir comment ça se passe. Donc on est aussi très prudent, très content, mais très prudent. On va évaluer, parce qu'on en est encore qu'au premier mois de la mise en place de ce dispositif, évaluer aussi l'impact que ça a, si vraiment c'est plus rapide, si ça n'est pas une complexité supplémentaire pour avoir toutes les déposer les dossiers, par exemple, mais ça ne devrait pas l'être. En tout cas, c'est ce que nous a dit le gouvernement. Il est demandé aussi au gouvernement, aux revendeurs de matériel médical, de présenter toute la liste des options possibles de façon à ce qu'elle soit dans la liste de remboursement de la Sécurité sociale, la LPPR. J'ai un jargon un petit peu technique.
Tout le monde n'a pas besoin de toutes les options.
Non, parfois ça peut être simplement une jambière, parce qu'on a besoin d'avoir une jambe rallongée. Parfois on conduit le fauteuil roulant à droite, parfois on le conduit à gauche. Il me faut un coussin un petit peu particulier. Enfin voilà, il y a plein de... Techniquement, aujourd'hui, on a tout le matériel. Vous savez, on dit souvent ici... Voilà, vous voyez mon état d'esprit, on est capable d'aller sur la Lune, on doit être capable d'avoir un fauteuil roulant qui corresponde à mes besoins, je suppose, quand même, si on en est capable d'aller sur la Lune. Donc on est prudent par rapport à la réelle prise en charge et de toutes les options qui sont nécessaires. Il est demandé aussi, je le disais, aux revendeurs de matériel médical d'avoir une certaine cohérence et également de revoir peut-être leur prix à la baisse, parce que c'est de l'argent public et on a vu des flambées parfois de matériel pour les personnes en fauteuil roulant, c'était inacceptable. Mais on est confiant. C'est un peu mon état d'esprit. Il y aura certainement des ajustements, il y aura certainement des choses à améliorer encore, mais c'est une avancée majeure et très très importante enfin.
Voilà, et donc ça c'était important d'y revenir parce que ça fait des années que vous travaillez pour obtenir cela, ce remboursement donc des fauteuils roulants. On va parler d'un dernier point pour terminer, Odile Le Galliot. Dans quelques jours auront lieu les élections municipales. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais les personnes en situation de handicap, elles ont aussi le droit de voter, bien sûr. Encore faut-il qu'elles puissent recevoir aussi les informations. Comment ça se passe, ça ? Est-ce que de ce côté-là, tout va bien ? Ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire pour qu'elles soient vraiment considérées, ces personnes, comme des électeurs qui ont la possibilité et le droit de recevoir les informations pour choisir leur candidat ?
Mais vous avez raison d'en parler, parce que la commune, le village, c'est le premier pas de notre citoyenneté, ouais. C'est là où on vit. Effectivement, et vous avez raison de le rappeler, ça remonte à plusieurs années, toute personne en France a droit de voter. Mmh. Alors, sauf si on est déchu des droits civiques, et selon certaines élections, si on a la nationalité ou pas française. Mais ça n'est, le handicap, quel que soit le handicap, ça n'est pas une exclusion au vote. Et encore des personnes, parfois, qui sont persuadées qu'elles ne peuvent pas voter. Et elles ont un avis. Je peux vous dire qu'elles ont un avis.
Pardon, mais elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de voter parce qu'elles sont en situation de handicap ? Elles pensent que leur handicap est un frein à l'accès au scrutin ?
Mais oui, parce que ça a été considéré bien longtemps comme, effectivement, une personne en situation de handicap mental, par exemple, n'avait pas la capacité de pouvoir voter. Mais non, absolument pas. Et donc aujourd'hui, quelle que soit la situation de handicap, on est des citoyens et on a le droit de vote. Donc nous, on dit aux personnes en situation de handicap, regardez, il y a parfois du ressenti aussi, on choisit une personne parce que finalement, d'après ce qu'elle dit, ou parce qu'on a entendu le mot handicap, ou la façon dont je vis dans ma ville et que je vois ma ville ou mon village évoluer, je suis confiant et je vais voter pour cette personne-là. Allez voter. S'il y a des difficultés de transport, vous pouvez nous le dire également à APA France Handicap. Ça peut s'organiser. On va dire qu'aujourd'hui, globalement, techniquement, sur le handicap moteur, les bureaux de vote sont accessibles. On en a fait déplacer, hein, au besoin.
Dans des communes plus modestes, plus petites, c'est parfois peut-être plus compliqué de rendre un bureau de vote accessible aux personnes en fauteuil.
Aujourd'hui, non. Alors, aujourd'hui, non, si on pense tout de suite qu'il peut y avoir des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Une école primaire, il y en a quand même dans beaucoup de communes, une salle qui soit accessible. On déplace juste le bureau de vote au lieu de le mettre au deuxième étage.
Et là, les élus sont réceptifs à cette question-là.
Oui, ils sont réceptifs. Et si on est alerté au premier tour qu'il y a un bureau de vote qui n'est pas accessible, eh bien, on intervient tout de suite et en général, ça change. Oui, absolument.
Je voudrais savoir comment les personnes, vous parliez tout à l'heure de personnes en situation de handicap déficient visuel. Là, typiquement, comment elles sont informées? On ne voit pas beaucoup, ou alors on ne le sait pas, de campagnes qui sont adaptées aux personnes déficientes visuelles.
Alors, vous savez, la première des choses, c'est qu'un candidat aux élections doit considérer, enfin, ne pas oublier que les personnes en situation de handicap font partie de leur électorat. Mmh. Et qu'à ce titre, il faut aussi se mettre, connaître leurs besoins, dialoguer avec elles, parler d'accessibilité, mais parler d'accessibilité numérique notamment, parce que c'est encore quelque chose qui est bien en panne en France aujourd'hui. Prendre en compte toute cette diversité, et les personnes en situation de handicap se sentiront concernées par les élections. Alors, on pense parfois qu'il faut un bulletin en braille. Non, en général, c'est relativement simple, mais c'est avoir un langage adapté pour être compris de tout le monde. Vous savez, parler avec des mots simples, parfois, c'est aussi se faire comprendre de n'importe quel public. Le discours politique, on peut le simplifier parfois. C'est pouvoir avoir des bureaux de vote accessibles. Ne pas se dire, si vous ne pouvez pas venir, il y a la procuration. Bon, la procuration, elle peut être entendue si la personne est malade ou en déplacement, par exemple, ou absente. Mais ça n'est pas une solution pour accueillir des personnes en situation de handicap au bureau de vote. Certainement pas. Nous, on...
C'est pas le nivellement par le bas.
C'est pas le nivellement par le bas. Vous avez tout à fait raison par là. Voilà. Je suis certaine qu'aujourd'hui, les personnes s'impliquent plus. On voit d'ailleurs des personnes en situation de handicap assez fréquemment sur des listes électorales.
Alors oui, voilà, elles peuvent aussi être candidates, et ça c'est quand même très important, et d'ailleurs elles ont sûrement beaucoup de choses à apporter en termes notamment de réflexion sur l'accessibilité, mais pas seulement.
Elles sont souvent sur des listes, elles sont candidates. Attention, il ne faut pas que ce soit non plus pour faire valoir en disant j'ai une personne en situation de handicap sur ma liste.
Ni non plus que ce soit juste pour régler les problèmes d'accessibilité.
Exact. C'est bien plus que ça, la situation du handicap. Ouais. Il y a l'accessibilité, certes, mais tout ce que je fais, comment j'anticipe et comment je fais pour pouvoir accueillir les personnes, quelle que soit leur différence dans ma ville.
On arrive déjà au terme de cet entretien, Odile Le Galliot, mais c'est passionnant, mais on reviendra vous voir si vous voulez bien, parce que d'abord l'accueil est sympathique, et puis il y a beaucoup de choses encore à dire, mais quand même restons pour terminer sur ce scrutin municipal. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que directrice APF France Handicap, vous avez envie de dire aux candidats, et qu'est-ce que vous aurez envie de dire aux élus dans quelques semaines ?
Nous avons publié un plaidoyer au niveau national, un plaidoyer APF France Handicap, que nous adressons aujourd'hui aux candidats. Par un souci de neutralité, nous ne les recevons pas. Nous rencontrerons les maires et certains nous connaissent bien déjà. Ce que j'ai envie de dire aux candidats, nous sommes 6 à 7 millions de Français en situation de handicap. Il y a 12 millions d'aidants en France. Pardon, je dis 6 à 7 millions, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap et 12 millions d'aidants, ce qui en fait quand même une proportion importante de la population. Vivons ensemble, apprenons à vivre ensemble, apprenons de nos différences. Nous sommes à vos côtés, risquons l'impossible, mais ensemble.
Merci beaucoup, Odile Le Galliot. Merci beaucoup pour ces informations, pour votre accueil. Et puis à très bientôt sur les ondes de Radio Présence pour d'autres sujets. On n'a pas fini de découvrir les actions d'APF France Handicap. Et en tous les cas, en attendant, bon préparatif pour les voyages dans le Morbihan.
Merci beaucoup. Merci également pour votre accueil. Ce fut un plaisir de dialoguer avec vous. À bientôt.